Chapitre 10e. Une chute profonde. Eutrope suivit sans se douter de rien le chambellan qui lui manda de se rendre auprès de l'empereur. Il était bien un peu étonné de l'heure matinale, mais cette circonstance ne lui était pas désagréable. Il comptait communiquer à l'empereur son projet de fête publique et en ordonner aussitôt après les préparatifs le plus rapidement possible. Après le conseil de la veille au soir, il avait offert un magnifique repas à ses deux amis et s'était endormi dans l'enivrante douceur de sa position de favori avec autant de confiance que s'il avait compté, comme l'autruche, sur l'aveuglement de ses ennemis. L'agitation des antichambres de l'empereur le surprit. Arcadius serait-il malade? Dangereusement peut-être? Peut-être même mortellement? Son esprit alla plus loin. L'empereur n'a pas de fils. Le petit Honorius est bien assez occupé de son Occident. Pourquoi moi, le consul, le patricien Eutrope, ne serais-je pas César Auguste? Il faudrait l'acheter cher, car tous ses yeux me regardent avec haine. Mais pourquoi ai-je rassemblé tous mes trésors? Ses pensées lui traversèrent le cerveau pendant qu'il s'avançait, suivi des regards de dédain et de mépris, des domestiques et des chambellans. Tout à coup il s'arrêta, en voyant Gaïna sortir de chez l'empereur et s'avancer vers lui. « Vous, ici ?» bégaya Eutrope en pâlissant. « Pourquoi non ?» dit le guerrier. Il prit Eutrope par le bras, l'entraîna violemment dans la salle et dit à l'empereur « César Auguste, voici le traître, punissez-le comme il le mérite !» Pâle et blême sous sa couche de fard, tremblant dans tous ses membres, et l'angoisse mortelle peinte dans son regard, Eutrope tomba à genoux. Car auprès de l'empereur il avait vu Eudoxia rayonnante de joie et de beauté, et cette pensée lui était venue rapide comme l'éclair. Ils sont réconciliés. Tribigild se soumet. Je suis perdu. Misérable, dit l'empereur avec courroux, voici ton arrêt. Prends-le et éloigne-toi de ma présence. Grâce, pitié, fit Eutrope avec gémissement, et sans prendre sa condamnation signée de l'empereur. Donnez-lui en lecture, Gaïnas, dit Arcadius, et ouvrez la porte, ajouta Eudoxia, afin que tous ceux qui sont là puissent acclamer la justice de l'empereur. Aussitôt cet ordre exécuté, tous les chambellans s'approchèrent le plus près qu'ils purent du seuil de la porte pour entendre et pour voir. Pas un seul ne manqua. Gaïnas lut à haute voix les quelques mots que Eudoxia avait écrits et qu'Arcadius avait signés. L'ex-grand chambellan, consul et patricien Eutrope, est dégradé de tous ses emplois, dignités et titres, dépouillé de tous ses trésors, et banni à perpétuité au plus loin de la côte de la mer Noire. Un cri de joie accueillit cette lecture, pendant que Eutrope se traînait sur les genoux du côté de Doxia. « Oh, Augusta, ma noble souveraine, sauvez ma vie !» lui dit-il en gémissant. Eudoxia se détourna de lui avec mépris. « Vous avez entendu, dit Arcadius, qu'on vous fait grâce de la vie, bien que vous méritiez mille fois la mort.
« On me tuera, » fit Eutrope en soupirant.
« Madame, vous avez été trop douce, » fit Gaïnas à l'oreille de Doxia. « Il me convient de châtier, non de perdre, » répondit-elle fièrement. « Sortez de ma présence, » dit Arcadius. « Allez prendre ce dont vous avez besoin. Dans 2 heures, soyez prêts à partir, car alors on vous emmènera. »«
Pour me massacrer, » fit Eutrope en pleurant.
Il s'approcha d'Arcadius en se traînant sur les genoux et essaya d'articuler quelques mots que sa frayeur mortelle rendait presque inintelligible.
« Ayez pitié de moi, ne me faites pas égorger. »«
Ce spectacle me torture !» s'écria Eudoxia. Elle frappa dans ses mains. Aussitôt Amoncius se fit jour à travers la foule des courtisans qui assiégeaient la porte, sans mettre le pied dans l'appartement de l'empereur.
« Emmenez-le, Amoncius, » dit Eudoxia. « Il est mort de peur. Veillez à ce qu'il soit prêt à partir. »
Amoncius souleva Eutrope, qui se laissa machinalement conduire hors de la salle. Dès la première antichambre, un torrent d'injures accueillit le favori déchu. Mais plus il s'éloignait de l'empereur et s'approchait des quartiers habités par les domestiques, plus les insultes devenaient graves. Amoncius eut beaucoup de peine à le défendre contre les coups qui s'apprêtaient à pleuvoir sur lui. Eutrope semblait ne rien voir, ne rien entendre, ne rien sentir. La peur de la mort le rendait insensible et sans connaissance. Chaque fois qu'on le menaçait et qu'on se disposait à le frapper, Amoncius s'efforçait de le protéger. « Au nom de l'impératrice, que personne ne le touche, il va en exil, il quitte la ville !»
Oui, il s'en va avec ses trésors, il s'en va, et elle reviendra. Cela ne doit pas être. Qu'il nous rende cet or qu'il nous a pris, qu'il a pris à tous les honnêtes gens. Il faut qu'il le paye de sa vie. L'exil n'est pas un châtiment pour de si grands crimes. » Ainsi criait la foule irritée. « Au nom de l'impératrice, éloignez-vous de lui !» répétait toujours Amancius. Il réussit à conduire le malheureux jusqu'à la partie du palais qu'il habitait. « Maintenant, dit Amancius, vous êtes en sûreté. Préparez-vous au départ jusqu'à ce que les gardes viennent vous prendre. »«
Moi, en sûreté ?» s'écria Eutrope. « Ne voyez-vous donc pas comme je suis abandonné ? Où sont mes domestiques ? Où sont mes amis ? Pas un n'est ici. Et n'entendez-vous pas là, au dehors, le tumulte sauvage, les cris furieux de la populace altérée de mon sang ? Remettez-vous, les soldats viendront vous prendre et vous protégeront. Les soldats, me protéger ? Ils sont excités contre moi par Gainas. Ils se jetteront sur moi comme des bêtes fauves. Ils m'étrangleront, ou bien ils me mettront en pièces et en morceaux.
Malheureux ! Fit Amancius, ébranlé de voir tant d'inquiétude pour une vie si misérable. Pensez à Dieu.
Ah, je vais le faire.
Fit tout d'un coup Eutrope, comme ranimé subitement par un éclair d'espérance.
Portez-vous bien, je vous remercie. Allez, laissez-moi, je veux être seul. Allez, Amancius.
Celui-ci hésitait à se retirer. Une crainte lui vint à l'esprit.
Vous ne voulez pas vous ôter la vie ?
Lui demanda-t-il d'un air inquiet.
Moi ? M'ôter la vie ? Êtes-vous fou de me faire une pareille question ? Je veux vivre, oui, vivre ! Dans un désert de la City ou de la Libye, mais vivre !
Vivre seulement. Ainsi, laissez-moi, mes instants sont précieux.
Que Dieu vous soit miséricordieux !
En disant ces mots, Amancius s'éloigna et alla dire à Eudoxia que ses ordres étaient exécutés.
« Félicitez-moi, » dit-elle rayonnante de bonheur. « L'empereur vient de convoquer les grands dignitaires pour leur annoncer qu'il me nomme Augusta. Je suis donc impératrice. »
La colère du peuple contre le favori disgracié devint de plus en plus violente. La foule se porta au théâtre, au cirque, au forum, où Eutrope s'était érigé des statues. On les renversa, on les traîna par les rues, on les mit en morceaux. Un groupe nombreux se pressa auprès de la porte, par où les prétoriens devaient le conduire au port d'embarquement. D'autres jetèrent des pierres et des ordures sur les murailles qui le cachaient à leurs yeux, et envoyèrent toutes leurs malédictions à l'homme dans lequel il se serait la veille traîné dans la poussière, et qui déjà s'était enfui mystérieusement. Eutrope ne perdit pas de temps. Il lava le fard et les couleurs qui recouvraient son visage, ôta ses riches vêtements et se couvrit de ceux d'un garçon cuisinier. Il se mit de la poussière sur la tête et se noircit les mains dans la suie et la cendre. En quelques instants, il acheva ce déguisement. Personne ne le dérangea. Ses domestiques avaient pris la fuite ou s'étaient joints à ses ennemis. Il se glissa, sans être remarqué, par l'arrière-cour du palais et prit les rues les plus désertes de la ville. Il était sans souffle, mort de peur, et cependant il modérait de temps en temps son pas pour n'éveiller aucun soupçon. Mais personne ne le remarqua. De tous ceux qui passaient à côté de lui, personne n'eut un soupçon que ce vieil esclave, sale et déguenillé, pouvait être le consul Eutrope. À la fin, il approchait de son but. D'un trait, comme une bête fauve traquée par les chasseurs, il traversa la grande place et se jeta dans l'avant-cour de Sainte-Sophie. Il se trouva en présence de deux femmes.
« Eutrope ? » s'écria l'une d'elles avec effroi.
« Taisez-vous, par pitié !» lui dit-il, et il continua sa course, pendant que les deux dames s'éloignèrent tranquillement. Arrivées sur la place, elles dirigèrent leurs pas du côté du palais du patriarche.
« Quelque chose d'extraordinaire est arrivé, » dit en marchant à sa compagne, celle qui avait reconnu Eutrope. « Allons informer notre Saint-Père de cette rencontre, afin qu'il sache ce qu'il doit faire. »
Les deux diaconesses Pentadia et Procla se firent annoncer au patriarche et furent aussitôt introduites dans sa pauvre chambre, qui ressemblait plutôt à une cellule qu'à l'appartement d'un prince de l'église. Il était assis à une grande table sur laquelle se trouvaient des livres en rouleaux, des parchemins et des tablettes de cire. Il salua les deux dames d'un regard amical et termina la phrase qu'il était en train d'écrire. Ensuite il se leva et pendant qu'elles s'inclinaient pour lui baiser la main, il leur demanda affectueusement ce qu'elles désiraient.
« Très honoré père, » dit Pentadia avec beaucoup d'émotion, « l'église a ouvert son asile à celui-là même qui voulait lui arracher son droit de grâce.
Eutrope, en habit d'esclave, vient de se réfugier à l'hôtel de Sainte-Sophie, tremblant et défiguré.
« Oh, providence divine !»
s'écria Chrysostome, comme vos voix sont merveilleuses. Et c'est vous, Pentadia, qu'il avait reconnu, vous à qui il voulait refuser cette même protection ?
Jusque-là, il paraît n'avoir été reconnu de personne, reprit-elle, mais cela ne peut durer longtemps.
Qu'est-il donc arrivé au palais pour amener cette catastrophe ? Demanda Chrysostome d'un air pensif.
Mais n'importe, la maison de Dieu le protégera.
Quelques ecclésiastiques vinrent aussitôt confirmer le grand événement. Eutrope disgracié s'était réfugié dans la basilique de Sainte-Sophie.
Il est sorti de l'hebdomon sous un déguisement, raconta Sérapion. Quand les prétoriens arrivèrent pour le mener au port et l'embarquer, son habitation était vide. Il parcourt en ce moment la ville pour le trouver, et le peuple est dans une agitation terrible. Entendez-vous les cris de la foule tumultueuse ?
Le bruit vient de ce côté, et il s'approche de plus en plus.
Entendez-vous ces hurlements féroces ?
Ils sont sur la trace du malheureux.
Pentadia y proclame pâlir en entendant les vociférations qui s'élevaient sur la grande place.
« Attendez que l'orage s'apaise, et ne vous mêlez pas à cette foule, » dit Chrysostome à ces deux dames.
« Pendant ce temps, allez voir mes malades dans mon petit hôpital. Vous y pourrez exercer votre charité et oublier votre émoi. Je vais à l'église. »«
Votre sainteté sauvera ce malheureux, afin qu'il ne meure pas dans ses péchés ?» demanda Pentadia.
« Je ne puis rien personnellement, ma fille. » répondit Chrysostome.
Priez pour lui, afin qu'il plaise à Dieu de protéger son saint temple et d'en éloigner toute violence.
Le patriarche traversa, accompagné de quelques prêtres, les cours et les corridors qui faisaient communiquer sa demeure avec Sainte-Sophie. Un diacre conduisit les deux diaconesses dans une partie retirée du palais, où de vastes et belles salles étaient remplies de lits occupés par des hommes dangereusement malades.
Nous les soignons tous, dit le diacre. Mais personne n'a pour eux plus de zèle et de dévouement que notre bon père. Il passe souvent auprès d'eux les nuits en veille et en prière, quand le fardeau et la multitude des affaires ne lui laissent pas de loisir dans le jour. Ici, vous n'entendrez pas le tumulte, et quand tout sera fini, nous vous apprendrons ce qui s'est passé.